explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
L'Océanie, Bora Bora, les Vainés, tu connais ?
Vous avez croyé que j'ai pu regarder les paysages par le hublot ?
Sur France Inter,
j'ai des envies de voyage.
Le temps d'un bivouac !
Le temps d'un bivouac.
Je suis prêt.
Daniel Fievé.
Alors que certains hurlent à la vue d'un cafard, lui est capable de parcourir des kilomètres pour apercevoir un perce-oreille. Alors que certains sortent l'artillerie lourde dès qu'une guêpe pointe le bout de ses antennes, lui éprouve un bonheur immense à la vue d'une petite abeille bâtisseuse. Alors qu'on pulvérise les champs à grands coups d'insecticides autour de sa maison, lui a installé dans son jardin des nichoirs pour que les petites bêtes à six pattes viennent y élire domicile. Vincent Albouy est un amoureux des insectes, en tout genre, fasciné par leur diversité et leur prouesse. De la lumière des lucioles au comportement maternel du perce-oreille, en passant par le marathon de 4000 km du papillon grand monarque d'Amérique, aujourd'hui, Vincent Albouy nous emmène à la découverte de ce petit monde que l'on a tort de méconnaître.
Que c'est beau.
Sur France Inter.
Mais vous ne m'écoutez pas, hein, vous regardez le monde. Évidemment, ça vaut la peine d'être vu.
Le temps d'un bivouac.
Bonjour et bienvenue dans notre bivouac et bonjour Vincent Albouy.
Bonjour.
Vous êtes entomologiste, vous êtes aussi président de l'Office pour les insectes et leur environnement, l'OPIE, l'OPI, auteur de nombreux ouvrages sur les insectes et la nature. Je cite les deux derniers, le petit guide entomo et guide des curieux de nature, tous deux aux éditions Delachaux et Niestlé. Vous allez donc nous emmener à la découverte de ce petit monde des insectes que vous aimez tant et que vous connaissez si bien. Nous sommes en direct et pour adresser une question à notre invité, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du temps d'un bivouac. Et puis à 17h, nous prendrons en filature ceux que l'on appelle les espions. Nous verrons comment et pourquoi des agents clandestins de la DGSE partent en mission dans les régions les plus hostiles de la planète, dissimulés sous de fausses identités. Voilà pour la feuille de route du jour. Cette émission est réalisée par Anne-Sophie Ladonne. Elle a été préparée par Sophie Vaux et Hugo Struna.
Ces bestioles énergiques qui volent en escadrille s'appellent des bousiers. Les bousiers ont du nez. Ils sont capables de sentir les excréments à près d'un kilomètre. En quelques minutes, des milliers d'entre eux arrivent en renfort. C'est un sacré boulot que celui des bousiers. Grâce à leurs mandibules, ils découpent la bouse en morceaux avant de la rouler en boule. La plupart de ces coléoptères emportent juste de quoi manger. D'autres cherchent à séduire les femelles. Et pour ça, l'essentiel est d'en mettre plein la vue. Comparés à leur taille, les bousiers sont plus forts qu'un éléphant. Sans le concours efficace de ce bataillon de travailleurs miniatures, l'air de la savane serait irrespirable.
Extrait du documentaire Le Peuple Miniature, le scarabée bousier. On se souvient l'avoir vu passer dans un autre documentaire d'ailleurs, hein, le film Microcosmos. Il était emblématique, cette espèce de scarabée. Et on ne peut pas dire que les scarabées suscitent beaucoup de sympathie de la part du grand public. Mais dans certaines civilisations, dans d'autres cultures, au contraire, on a complètement déifié ce scarabée.
Oui, les Égyptiens antiques en avaient fait un dieu parce qu'ils le voyaient au travers du scarabée. Alors déjà, le scarabée sacré, celui qui a été baptisé scarabée sacré par Linné, parce que justement, il vivait en Égypte et il était déifié par les Égyptiens, a la tête en forme de demi-lune, en fait, très aplatie avec des épines, qui est un outil pour lui servir à creuser justement dans les bouses. Et ça représentait le soleil en train d'émerger. Donc déjà, comme la civilisation égyptienne était solaire, c'était un signe fort. Et le fait que justement, ils sortent de la bouse pour devenir cet insecte parfait, on voyait aussi, les Égyptiens, ils voyaient aussi le symbole, un des symboles de la résurrection. Et donc, ils en avaient fait un dieu. Et beaucoup de touristes rapportent en souvenir, d'ailleurs, des amulettes en forme de scarabée sacré qui sont très courantes dans les boutiques de souvenirs égyptiennes. On en a rapporté plusieurs exemplaires.
Alors, il n'y a pas qu'en Égypte, en Amérique du Sud aussi. aussi, on dit que c'est un scarabée qui a façonné le premier homme et la première femme à partir de l'argile.
De la glaise. C'est ce côté très visible. En plus, la pilule, bon, il y a beaucoup de bousiers différents, certains qui restent dans les bouses, qui s'enterrent en dessous, on les voit pas. Mais ces espèces-là qui ont suscité des mythes sont les espèces qui font une pilule de bouse et qui la roulent plus ou moins loin pour l'enterrer, pour la manger tranquillement ou y pondre des œufs. Et ce déplacement fait aussi référence, notamment pour les Égyptiens, mais pas que pour eux, à des planètes qui tournent dans le ciel, en fait. Et donc, il y a toute cette... à la fois très terre-à-terre, rien de plus terre-à-terre qu'un bousier, mais en même temps, ça conduit la pensée jusqu'au firmament.
Ouais, et voilà comment un insecte qui traîne avec lui une boule de bouse peut inspirer plutôt que dégoûter. Ça aussi, un vrai intérêt, pas que pour lui, hein, finalement, pour la nature. Il fait un travail très intéressant en traînant cette boule de bouse avec lui.
Oui, il fait partie de ces ouvriers qu'on voit pas parce qu'ils ont toujours été là, donc on s'aperçoit pas de leur présence. Par contre, en Australie, quand les Européens ont amené leurs vaches, les vaches, ça fait des grosses bouses bien molles, alors que les kangourous, ça fait des petites crottes bien dures. Donc les bousiers locaux n'étaient pas du tout intéressés par les bouses. Et donc, au début des années 1900, enfin vers 1910-1920, ils se sont aperçus que quasiment 10% des prairies étaient devenues stériles, enfin étaient stérilisées par les bouses qui séchaient sans disparaître. Ouais. Et là, ils ont introduit des bousiers d'origine d'Afrique du Nord, d'origine méditerranéenne ou africaine. Et en quelques années, le problème a été résolu, les bousiers se sont adaptés, ont enterré les bouses et la productivité des herbages a considérablement augmenté. D'abord parce qu'il n'y avait plus ces plaques sans herbe à cause des bouses et ensuite parce que les bouses enterrées favorisaient la pousse de l'herbe. Ce sont des recycleurs très efficaces.
Oui, voilà, efficaces et utiles, hein, presque indispensables. Alors, on a énormément de choses à apprendre en observant les insectes dans des domaines très différents. L'économie d'énergie aussi, j'évoquais en introduction ce papillon. Il est tout petit, hein, il y a la taille d'un papillon. Et bon, même si on dit que c'est le grand monarque d'Amérique, il est quand même pas bien grand. Et il est capable de faire 4000 kilomètres pour aller se mettre un peu au chaud pendant l'hiver rude du Canada. Comment fait-il un tel exploit?
Bon, d'abord, il a des ailes très grandes, comme tous les papillons, et il utilise au maximum cette surface portante. Il fait pas comme un oiseau qui ne cesse de battre des ailes, il fait plutôt comme un vautour qui se laisse porter par les courants aériens, mais en plus, lui, en se déplaçant, donc en faisant des vols planés, il va alterner, par exemple, en déplacement rapide, quelques battements d'ailes, et puis après, il va planer, etc. Et cette intermittence, un peu comme les voitures... les voitures modernes hybrides qui ne font pas tourner le moteur en permanence. Bon, c'est pas le même principe, mais c'est à peu près ça. C'est-à-dire que comme il ne bat plus des ailes en permanence, il peut faire avec la même énergie, il va faire une distance beaucoup plus grande. Et puis bon, il est pas très pressé parce qu'il met quand même plusieurs semaines pour faire ses 4000 kilomètres.
Oui, bon, mais c'est déjà pas mal quand même. Et puis alors, il y a aussi les insectes qui ont à nous en apprendre en matière d'éclairage. Alors là, les lucioles, c'est vrai que c'est dans les nuits d'été, c'est très poétique, hein, ces petites lucioles qui clignotent. Comment elles produisent cette lumière, les lucioles?
Alors déjà, les lucioles, elles nous écrasent. Hein. Nous, on est fiers de nos ampoules à économie d'énergie, les LED, qui ont un rendement de 30%. Alors c'est nettement mieux que l'ampoule d'Edison à 5% de rendement, mais les lucioles, c'est 90% de rendement, autour de 90% de rendement. Donc on voit qu'on a encore de la marge de progression dans la technique humaine. Alors comment elles y arrivent? Alors en fait, on s'est aperçu en les étudiant qu'elles ont encore, et la nature est une grande recycleuse, et elles ont recyclé des déchets. C'est-à-dire que leur processus de digestion produit certaines molécules, certaines protéines, et un jour elles ont acquis une molécule, je ne sais plus comment ça s'appelle, en AS, le nom m'échappe.
La luciférase, peut-être.
Voilà, la luciférase, mais le nom qui m'échappe, c'est la catégorie.
Ah.
C'est,
enfin bref. Bon, je pense qu'on peut comprendre sans avoir le
donc,
nom.
Donc la luciférase, qui est bâtie sur le terme lucifère, qui fait de la lumière, et elle casse ces molécules en produisant d'autres, et qui vont fournir une lumière froide, donc à plus de 90% de lumière et seulement 10% de chaleur. Ouais. Et c'est un déchet métabolique en quelque sorte, donc c'est pour ça que les larves par exemple sont toujours lumineuses, mais les adultes vont utiliser cette lumière pour se reconnaître entre eux au moment de l'accouplement.
Ah, c'est à ça que ça leur sert, c'est voilà. Des appels de phare pour se séduire.
Alors nous on a très peu d'espèces en région méditerranéenne, on a quelques-unes, hors de la région méditerranéenne on en trouve généralement qu'une au même endroit, donc il n'y a pas de problème de reconnaissance, hein. C'est une petite lumière verte continue. Par contre, dans les régions tropicales où il peut y avoir plusieurs dizaines d'espèces, ou même méditerranéennes, on va avoir des lucioles qui clignotent. et qui vont avoir des codes, un peu comme les phares, c'est-à-dire les alternances de... Alors déjà, la lumière peut varier, hein, ça peut être vert, ça va jusqu'au rouge. Et puis, il y a des alternances
de séquences
allumées, voilà, séquences allumées, éteintes, allumées, éteintes, avec des cycles différents de longueur. Et donc, les espèces vont comme ça, le mâle va reconnaître sa femelle comme ça. Et on a une espèce qui américaine, la Luciole Femme Fatale, qui elle...
C'est vraiment son nom ou c'est comme ça que vous l'avez surnommée?
C'est la traduction du nom anglais.
D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait, la Luciole Femme Fatale?
Alors, la Luciole Femme Fatale, quand elle a besoin de se reproduire, elle fait son signal normal, elle attire son mâle et elle s'accouple. Et puis, une fois qu'elle s'est accouplée, elle a besoin de faire des œufs. Et pour faire des œufs, il faut des protéines. Et pour des protéines, il faut chasser. Alors, d'habitude, les Lucioles, enfin, les nôtres, par exemple, nos vers luisants, nos Lucioles chassent les escargots. Elle a trouvé mieux. Elle contrefait le code d'une autre espèce. Il y a un mâle d'une autre espèce qui vient et hop, elle le boulotte.
Ah oui. Voilà, qu'est-ce qu'elles sont,
qu'elles
sont écolo hein, quand même, ces insectes, ces lucioles qui ont des ampoules à économie d'énergie, ce papillon qui utilise les courants. Et on a aussi les termites hein, qui, avec une climatisation très naturelle des termitières, alors là, ils vivent à plusieurs millions là-dedans, ça peut faire 6 mètres de hauteur.
C'est énorme, c'est les plus grosses constructions hors construction humaine du monde animal, les termitières, et au-dessus du sol. Et le plus extraordinaire, c'est qu'on peut trouver des termites par exemple dans la savane ou même à la limite du désert, dans des zones où c'est un cagnard pas possible, le soleil tape en permanence, il n'y a pas un gramme d'ombre.
Ouais.
Parce qu'elles arrivent à creuser. En fait, elles peuvent s'installer si il y a de l'eau à une profondeur suffisamment, à quelques dizaines de mètres de profondeur, et elles vont creuser des galeries pour faire remonter l'eau, et l'eau en s'évaporant va créer du froid, c'est le système de climatisation classique. Et donc, elles vont pouvoir contrôler l'atmosphère du nid, même dans des zones qui sont invivables pour les autres animaux.
Vincent Albou, il y a un autre insecte bâtisseur qui a attiré votre attention. Vous l'avez cherché pendant 40 ans, celui-là. C'est le calicodome. Et l'entomologiste Jean-Henri Fabre avait évoqué cet insecte dans ses écrits.
Calidome, c'est-à-dire maison en caillouetage, en béton, en mortier. Dénomination on ne peut mieux réussir si ce n'était sa tournure bizarre pour qui n'est pas nourri de la moelle du grec. Ce nom s'applique en effet à des hyménoptères qui bâtissent leurs cellules avec des matériaux analogues à ceux que nous employons pour nos demeures. L'ouvrage de ces insectes est travail de maçon, mais de maçon rustique, plus versé dans le pisé que dans la pierre de taille. Étranger aux classifications scientifiques, ce qui jette grande obscurité dans plusieurs de ses mémoires, Réaumur a nommé l'ouvrier d'après l'ouvrage et appelé nos bâtisseurs en pisé abeilles maçonnes, ce qui les peint d'un mot.
Le calicodome dépeint par Jean-Henri Fabre, célèbre entomologiste décédé en 1915, mais qui a laissé des écrits hein, dont les souvenirs entomologiques et qui a donné envie, cette passion en fait, de nombreux entomologistes la doivent à Jean-Henri Fabre en lisant ses écrits, ils ont eu envie. C'est un peu votre cas, hein. Vous êtes tombé étant petit, tout gamin, sur ce texte qui parlait du calicodome. C'est devenu presque une obsession, j'exagère, mais vous l'aviez en tête pendant 40 ans.
Fil conducteur, oui. À 11 ans, à la bibliothèque municipale de ma ville de banlieue, j'habitais en banlieue parisienne, je suis tombé sur les souvenirs entomologiques, j'ai commencé à les lire, et au tome 2, Fabre parle du calicodome. Et pourquoi cet insecte m'a, ou abeille maçonne, hein, pourquoi cet insecte m'a plus particulièrement intéressé? Parce qu'il dit que, il cite Réaumur, donc le physicien Réaumur, l'inventeur du thermomètre, qui vivait au début du XVIIIe siècle, et qui, lui, l'avait observé dans ce qui est maintenant Paris Intramuros, le 11e arrondissement, qui à l'époque était à l'extérieur des murs de Paris. Et donc je me suis dit, s'il l'a trouvé lui, pourquoi pas moi?
Et donc vous l'avez cherché. Mais pendant 40 ans pour le trouver.
Pendant 3 ans, j'ai pédalé dans ma banlieue pour essayer de le trouver. Je ne l'ai pas trouvé, j'ai eu plein d'autres choses. Ça a été très formateur pour moi. Et puis après, à chaque fois je me déplaçais dans des endroits, j'essayais de le trouver. J'ai déménagé dans les années 80 en Charente-Maritime, en Saint-Onge. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Puis un jour, en 97, l'année...
Vous aviez même passé, je crois, une annonce dans un journal où va se niger la passion des entomologistes.
Pas encore l'annonce, justement. Donc en 97, je me suis dit, tiens, je vais aller, c'était l'année de mes 40 ans, et je me suis dit, tiens, comme cadeau, je vais aller me faire un grand voyage en région méditerranéenne, et notamment je vais aller à l'Armas de Fabre, comme ça je vais voir le calicodome. Je vais à l'Armas de Fabre, je rencontre le conservateur, qui me dit « Oh, les calicodomes, il n'y en a plus maintenant. Il y a des nids fossiles, mais ils ont disparu. » Donc, j'ai pas pu voir le calicodome en région méditerranéenne, alors qu'à l'époque de Fabre, le calicodome des murailles, donc l'abeille maçonne de Réaumur, et le calicodome des hangars une espèce voisine qui lui fait son nid sous les tuiles des toits, c'est elle les insectes les plus courants du Vaucluse au mois de mai. Donc c'est énorme.
Ah, mais ça montre qu'ils ont disparu.
Ils ont vraiment disparu parce qu'en fait, ils butinaient essentiellement des légumineuses, et notamment du sainfoin, qui était largement cultivé, y compris aux environs de Paris au XVIIIe siècle, pour l'attraction animale, pour les chevaux de trait.
On y reviendra, évidemment, à ces changements d'environnement qui font que les insectes disparaissent. Mais pour finir sur le calicodome, vous allez jusqu'à passer une petite annonce dans un journal spécialisé pour le trouver.
En fait, non. Je dis dans un article d'un journal que celui-là, il y a un article sur la disparition des insectes, que celui-là, je le cherche depuis 40 ans, je ne l'ai pas trouvé. Et je reçois l'appel d'un copain qui me dit, moi, je le connais dans un village à 50 km de chez toi, où il était allé. Il était breton, lui. Enfin, il est breton, mais il y était allé pour un repas d'anciens combattants, enfin pas d'anciens combattants, d'anciens du régiment. Et l'organisateur était maire de ce petit village. Et par hasard, comme c'est un naturaliste aussi, il est tombé dessus, il l'a photographié, il m'a envoyé des photos, je suis allé le voir. Et depuis 5-6 ans, il ressemble à ce que je savais à quoi il ressemblait. C'est une grosse abeille noire, un peu poilue, avec le mâle qui est plutôt marron. Et surtout, elle construit un nid de terre, et c'est seulement au mois de mai, fin avril, début mai, fin courant mai, et elle un gros nid de terre qu'elle met sur de la pierre de taille, du rocher ou un support dur. Voilà.
Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez vue enfin après 40
j'ai dit,
années?
J'ai dit, je vais pouvoir passer à une autre espèce, et maintenant je cherche une autre espèce.
L'entomologiste Vincent Albouy nous emmène dans ses enquêtes à la découverte du peuple de l'herbe. Entre surprise et émerveillement, nous sommes en direct, et pour nous adresser un message ou une question, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou notre page Facebook.
There was music with drums and everything. And then these cats came through. They called themselves VCUC. They came with a brand new style and a brand new swag from the woods, y'all. Attack, 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 attack. Attack, 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 attack.
C'était Yindé de BCUC sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Donc là, je vais piquer le papillon dans son thorax avec de l'ammoniac afin de relaxer la musculature et ainsi de remettre le papillon dans sa position naturelle. Parce que souvent, quand on les tue, ils retournent leurs ailes, et ensuite, lorsqu'on revient en laboratoire, c'est moins facile pour les préparer. Préparer un papillon, ça veut dire en fait étaler les ailes à plat afin de présenter d'une manière conventionnelle les quatre ailes. de manière à ce que tous les motifs soient apparents pour mieux les étudier. Donc je vais ici mettre le code 3G2 pour le troisième voyage en Guyane et la deuxième prospection de la mission Guyane de cette année.
Nous étions donc en Guyane, Vincent Albouy. Les entomologistes s'intéressent aux insectes, mais c'est une passion quand même un peu destructrice, hein, en tout cas pour les insectes qui se retrouvent épinglés dans leur collection.
Alors ça, c'est dû au fait que les insectes sont de loin les êtres vivants les plus nombreux, puisqu'ils représentent à eux seuls environ la moitié des espèces connues. Ouais. Et donc, c'est énorme. C'est un groupe qui n'est pas totalement connu encore. On pense qu'on connaît pas, on connaît même pas la majorité des insectes. Et donc, chaque année, on en découvre de nouveaux. Et on est obligé de faire ce qu'on appelle des collections de référence, c'est-à-dire de piquer des insectes au fond d'une boîte pour avoir un exemplaire qui fasse référence, un type, comme on dit. Et donc, on ne peut pas étudier les insectes uniquement à vue, c'est pas possible. Mmh. Il faut souvent disséquer les pièces génitales, etc. Donc, ça demande un long travail minutieux. Et il y a quelques muséums dans le monde qui ont des collections remarquables par leur importance, dont celui de Paris.
Mais vous, ça ne vous amuse pas plus que ça? Vous n'avez pas de collection quand vous les étudiez, vous en tant qu'entomologiste amateur?
Moi,
épinglez pas.
Je suis un disciple de Fabre, donc c'est surtout l'insecte vivant qui m'intéresse, son comportement. Ceci étant dit, j'ai fait des études systématiques, comme on dit, sur les perce-oreilles. J'ai collaboré avec le muséum. Hein. Mm-hmm. Et par contre, je suis un peu lâche dans cette perspective. C'est-à-dire, j'utilise les insectes piqués par d'autres, mais je ne le fais pas moi-même.
Vous venez de le dire, hein, votre animal de prédilection, votre insecte de prédilection sur lequel vous avez fait votre thèse, c'est le perce-oreille. Il mérite une thèse. Qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire?
Alors, j'ai pas fait de thèse. J'ai débuté ma thèse dessus, puis j'ai décidé de pas faire de thèse. J'ai bifurqué.
Vous l'avez étudié?
Mais je l'ai bien étudié avec le professeur Cossanel, hein, avec qui j'avais débuté cette thèse, qui était professeur directeur du laboratoire d'entomologie du muséum et qui était physiologiste à l'origine et qui a beaucoup travaillé sur la physiologie du perce-oreille dérivage. Donc c'est pour ça qu'il s'intéressait au perce-oreille.
Mais je préférais que vous me parliez du perce-oreille plutôt que de ce monsieur.
Ce perce-oreille-là, mais justement, si j'en parle, c'est parce que il l'avait choisi comme un thème d'étude parce que la femelle soigne ses œufs et ses larves. Et lui, il étudiait pourquoi elle se comportait comme ça, et il a montré, avec d'autres, que c'était des questions d'équilibres hormonaux. C'est-à-dire qu'on changeait certains taux d'hormones, et hop, la femelle arrêtait de soigner les œufs et les mangeait. Ou au contraire, une femelle cannibale, on lui mettait des glandes parce qu'il travaillait en disséquant, en mettant des glandes. Il mettait une nouvelle glande, et hop, de cannibale, elle se mettait à soigner les œufs. Donc, c'est très intéressant de voir que, lui, il disait, je me souviens quand ma compagne était enceinte, il disait tout ça, c'est l'amour maternel, c'est des questions d'hormones.
Ah oui.
C'est un peu réducteur, mais l'insecte est un matériau aussi qui nous apprend plein de choses.
C'est-à-dire qu'il voyait une sorte d'instinct maternel, en tout cas, d'attention maternelle chez la femelle perce-oreille.
Il y a. Au début, au 19e siècle, on appelait ça l'amour maternel. C'était très anthropomorphique. Ouais. Maintenant, on appelle ça comportement de soins parental ou comportement de soins aux œufs et aux larves. Voilà. C'est beaucoup plus neutre. Ouais. Et ce sont des états hormonaux qui vont déclencher ce type de comportement, ou au contraire, quand l'état s'est modifié, ils deviennent cannibales et ils se mangent entre eux. Donc ils se dispersent. C'est très très lié à la chimie, et les insectes nous ont beaucoup appris. En étudiant les insectes, on a beaucoup appris sur les hormones et comment elles fonctionnent, sans parler de la drosophile et des études génétiques qui sont basées sur elles.
Mais alors, c'est ce qu'on se rend compte en vous écoutant, il y a des tas de choses qui nous échappent parce que c'est tellement petit que ce monde, on le néglige. Mais pareil, hein, dans vos livres, vous racontez, alors c'est même assez terrifiant le nom qu'on a donné, c'est une mouche ou une abeille qu'on a appelé le faucon des tarentules, je crois. Que fait-elle cette...
C'est une guêpe nord-américaine qui chasse les tarentules. Alors c'est la famille des pompilides. Les pompilides, toutes les personnes angoissées par les araignées devraient les remercier parce que ce sont des chasseurs exclusifs d'araignées. Non. Et cette espèce-là s'attaque à des grosses tarentules du désert nord-américain, donc les araignées poilues qui font vraiment peur. Et lui, il a peur de rien. Non seulement il a peur de rien, mais apparemment la tarentule est comme tétanisée à son approche. Et elle se laisse quasiment... Alors son truc à lui, comme beaucoup de guêpes, le pompile va percer avec son dard la peau de l'araignée et va inoculer un peu de venin au niveau des ganglions nerveux, des centres nerveux, et l'araignée va être paralysée. Comme ça, il peut mettre ça dans un terrier, pondre dessus, et sa larve aura des provisions fraîches. Et bien l'araignée, elle se laisse alors qu'elle a toutes les armes pour le broyer. Elle ferme ses mâchoires sur lui, ses chélicères, et il est mort. Mais elle va quasiment pas faire de gestes de défense, comme paralysé, et hop, il peut venir faire sa petite besogne, il la paralyse et il l'enterre pour pondre son œuf.
Et ça devient le nid de ses futurs
rejetons. Et ça devient le nid d'une larve, et puis après il va chasser une autre araignée. Donc on a comme ça, on ne sait pas comment il fait, s'il l'hypnotise, enfin, il y a aucune raison qu'elle ne se comporte pas avec lui comme avec une autre proie. C'est-à-dire avec une autre proie, elle saute dessus, et puis elle a un poison très violent, il est foudroyé. Ouais. Et bien non. Avec lui, ça, alors,
je sais pas. Il lui fait une petite danse. Peut-être qu'on n'a pas encore compris.
On n'a pas encore compris. Non, il n'y a pas d'explication rationnelle. Mais en tout cas, devant lui, elle ne bouge pas. Elle se laisse quasiment faire comme un toutou.
Alors, devant ces cas particuliers un peu spectaculaires, il faut quand même aussi qu'on dise que de façon générale, les insectes jouent des rôles prépondérants, importants dans les écosystèmes. Alors, donnez-nous un peu l'ampleur de la tâche et de ce qu'ils nous apportent, ces insectes.
En fait, il y a cinq grands... Enfin, moi, je définis cinq grands rôles par rapport à nous, les hommes, hein, parce que c'est toujours la vision humaine sur la nature. Alors déjà, on a beaucoup d'espèces qui sont végétariennes. Alors les végétariens, c'est ceux qui nous embêtent le plus, parce qu'ils vont manger nos cultures. Mais en fait, on devrait aussi garder dans la tête que c'est eux qui contrôlent les autres plantes. En fait, les végétariens sont destinés à éviter qu'une plante domine sur les autres. Mmh. Et quand c'est une grande culture de maïs sur plusieurs centaines d'hectares, évidemment, ils vont intervenir pour éviter que ça domine.
C'est un peu les gendarmes, ils assurent un certain équilibre.
Voilà. Alors ça, on s'en est rendu compte très fortement à cause des plantes dites invasives. Par exemple, aux États-Unis, ils ont des plantes invasives d'origine européenne, et souvent ils arrivent à en venir à bout en introduisant des végétariens européens qui vont arriver à contrôler ces plantes. Donc on voit bien que si nous, on n'a pas trop de problèmes avec les orties, parce qu'il y a plein de papillons et de chenilles et de papillons qui mangent des orties.
Il y a le rôle des pollinisateurs aussi.
Voilà. Les pollinisateurs, c'est un autre rôle très important. Ce sont des végétariens, mais particuliers, puisqu'eux vont se nourrir du nectar et du pollen des fleurs. Alors eux, leur rôle est très important parce qu'au lieu de limiter les plantes, au contraire, ils les favorisent en favorisant leur reproduction, et non seulement leur reproduction, mais aussi une reproduction de qualité. Parce que des fleurs qui ne sont pas pollinisées, qui devraient être pollinisées par des insectes et qui ne le sont pas, peuvent produire des graines, mais souvent de qualité moindre, qui germent pas ou germent mal.
Ils assurent aussi le nettoyage, le recyclage, en
voilà,
quelque
la
sorte.
Troisième. Troisième aspect, c'est les végétariens, on va dire, qui s'occupent que de matière organique morte, donc les feuilles mortes qui tombent au sol, etc. Donc eux, ils vont avoir un rôle de fragmentation de cette matière végétale morte, de prédigestion. Après, ça va être les vers de terre qui vont enfouir ça et les bactéries qui vont finir le travail. C'est le premier maillon de la chaîne, les insectes, en quelque sorte, dans la chaîne du recyclage. Donc, ils sont garants d'une bonne fertilité des sols, parce que s'ils font pas ce premier travail, évidemment, les autres éléments ne peuvent pas travailler. Mmh. Donc, ça, c'est les recycleurs. Alors, de matière aussi organique animale, hein, puisqu'on a les nécrophores qui enterrent les petits cadavres, et puis on a les bousiers qui s'occupent des déjections animales, donc... Ça, c'est le troisième rôle.
Ils ont aussi un rôle sur les parasites.
Voilà. Après, il y a tous ceux qui sont carnivores, parasites ou prédateurs. Et alors, eux, ils régulent les autres.
Ouais.
Pour éviter quand même que les végétariens dominent trop, donc qu'une plante disparaisse. Le végétarien est destiné à éviter qu'une plante domine, mais le parasite ou le prédateur à éviter que la plante disparaisse.
Et qui est-ce qui... Ils se mangent entre eux. C'est la chaîne alimentaire.
Le pire ennemi d'un insecte, généralement, est toujours un autre insecte. Hein, ouais. Avec des stratégies. Par exemple, on a des parasites qui pondent un œuf, et de cet œuf vont sortir 3000 larves. Alors évidemment, la chenille, elle est mangée toute de suite. Et puis, les 3000 guêpes qui sortent, elles vont se répandre sur les chenilles qui restent, et vous avez une invasion de chenilles, et une semaine, 15 jours après, d'un seul coup, vous ne voyez plus rien, parce que ça a été brisé par une pullulation de parasites.
Puis ils servent aussi de nourriture à tout un tas d'autres
et
animaux.
Et le cinquième élément, c'est... La moitié des espèces vivantes, évidemment, ça représente un énorme volume. Et c'est l'état juste au-dessus des végétaux dans les chaînes alimentaires. Et donc, il y a énormément d'espèces animales qui en dépendent. Par exemple, dans nos jardins, les mésanges, les hérissons, les musaraignes, dépendent, les crapauds, etc., dépendent en partie ou en totalité des insectes.
Ils ont donc un rôle assez important, voire primordial, on l'entend. Donc, s'ils venaient à disparaître, eh bien, ils nous manqueraient.
L'élevage des jeunes est devenu plus problématique, car il y a de moins en moins d'insectes, ou alors leur accessibilité s'est réduite. Plusieurs espèces d'oiseaux ne trouvent pas assez de nourriture pour élever leurs petits, malgré leur spécialisation par rapport à un type d'habitat. On ne compte pas les insectes. On aurait dû commencer à le faire il y a 30 ou 40 ans, mais on ne se doutait pas qu'on aurait besoin de ces chiffres aujourd'hui pour établir le lien entre l'évolution des populations d'oiseaux et celle des insectes. Ce serait formidable de pouvoir le faire. Seules quelques rares études mettent en évidence la régression des insectes, et elles sont capitales pour nous, puisque nous ne possédons aucune donnée sur l'ensemble de la région.
L'ornithologue allemand Hans Gunther Bauer dans le magazine Xenius d'Arte. Je vous voyais acquiescer, Vincent Alboui. Ils disparaissent vraiment, ces insectes? Et pas seulement en Allemagne, j'imagine?
Oui, alors, on peut prendre le sens disparaître dans, enfin, le mot disparaître avec deux sens. Un sens que les gens ont le plus souvent dans la tête, qui est une espèce va disparaître, comme les éléphants sont menacés de disparaître, les baleines sont menacées de disparaître. Pour les insectes, on a rarement de preuves, c'est à la marge. Par contre, ce qui est certain, c'est que la grande majorité des espèces autrefois très communes sont beaucoup moins nombreuses. C'est-à-dire que là où moi je voyais 100 perce-oreilles, j'en vois plus que 1 maintenant. C'est un facteur 1 à 100, c'est énorme. Je rentrais, quand j'étais gamin, je rentrais dans un champ, enfin dans un pré de fauche, il y avait des papillons innombrables qui s'envolaient. Maintenant, je rentre dans un pré, je vois 10 papillons, je suis content. Le plus souvent, je vois un papillon, voire pas de papillon du tout. Donc on a vraiment cet effondrement des populations, et donc, derrière, il y a un problème pour toutes les espèces qui dépendaient de cette ressource. Et donc l'ornithologue a raison. Les Parisiens, par exemple, les Parisiens un peu anciens comme moi, je suis né en banlieue parisienne, j'ai fréquenté Paris jusque dans les années 80, les deux oiseaux les plus communs, c'était le pigeon et le moineau. Moi, je me souviens pas d'avoir vu une corneille dans Paris dans ma jeunesse. Et à la fin des années 90, début des années 2000, quand j'ai refréquenté souvent Paris pour des raisons professionnelles, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup moins de moineaux, mais que les corneilles étaient de plus en plus nombreuses. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le moineau, qui est granivore, n'a aucun problème pour se nourrir avec nos déchets, mais son, au moment de la reproduction, son oisillon a besoin d'insectes, de protéines animales, et là, la reproduction se fait mal, alors que les corneilles sont omnivores et peuvent avoir ces protéines sous forme de déchets de viande, de McDo par exemple, de beefsteak haché ou autre, ou voire d'oiseaux écrasés, de pigeons morts. Et donc, ils n'ont pas besoin d'insectes et ils peuvent pulluler à Paris.
Suite de notre bivouac dans le monde des insectes avec l'entomologiste Vincent Alboui. Et dans un instant, puisque vous en parliez, nous allons nous intéresser au sort des insectes dans les villes. Il paraît qu'on a même entendu des grillons dans les tunnels du métro parisien.
Quand il n'y aura plus sur la terre que du beurre fondu, avec le dernier soupir du dernier disparu, dernier boom de la dernière guerre, dernière ville sous la poussière et dernier espoir perdu. Ce chemin vert sous les arbustes est protégé par les premiers soupirs des tout premiers baisers, premier mot de la première heure, première minute de bonheur, premier serment partagé. Tu te rappelles, on s'était couché sur un millier. Les fourmis roux, est-ce que quelque chose a changé? Couchons-nous sur les fourmis roux pour voir si l'amour est resté et voir si l'un de nous debout couché sur les fourmis roux. N'aura jamais peur du vent qui souffle ici. Et pour les scorpions, ne te fais pas de soucis. Les mauvais chagrins d'hier, les orties dans les fougères, quand on s'aime, ils nous aiment aussi. Ce chemin vert sous les arbustes nous connaît bien. De nos tout premiers rires, c'est le premier témoin. Refuge de la dernière heure et dernière tâche de bonheur au premier signe du destin. Tu te rappelles, on s'était couché sur un millier de fourmis rouges. Aucun de nous deux n'a bougé. Les fourmis rouges, est-ce que quelque chose a changé? Couchons-nous sur les fourmis rouges pour voir si l'amour est resté. Voir si l'un de nous debout couché sur. quelque chose a changé. Couchons-nous sur les fourmis rouges pour voir si l'amour est resté. Et voir si l'un de nous debout est couché sur les fourmis rouges.
Michel Jonas chante Les Fourmis Rouges dans Le Temps d'un Bivouac sur France Inter.
Alors, t'as attrapé des choses ?
Regarde, je suis resté 5 minutes ici avec toutes ces fleurs sauvages. Ben, j'ai une diversité incroyable de pollinisateurs. Alors, j'ai une guêpe. La guêpe, elle va sur
la
les fleurs.
La guêpe qu'on connaît.
La guêpe commune, celle qui vit en société. Plus chouette, j'ai trouvé le modèle et la copie. Donc, il y a une mouche.
Une mouche déguisée en abeille pour une faire genre je suis méchante.
Voilà. Un cirf. Donc là, il y a l'abeille domestique et la mouche éristale qui ressemble à s'y méprendre au mâle de l'abeille domestique.
On est encore dans un milieu ultra-urbain ici à Paris. Ces bêtes-là, elles arrivent à trouver de quoi vivre, de quoi se nourrir.
Ben, oui, comme quoi il suffit de laisser un peu d'herbe folle, de friche, et tout de suite, il y a une diversité qui arrive. Et là, on est à 1, 2, 3, on est à plus de 10 espèces.
Sur, allez, on va dire
et sur
1
mètre carré, et quand on regarde, voilà. Et pourtant, ce jardin n'est pas très vieux.
L'entomologiste François Lasserre, à Paris, sur la Petite Ceinture. Vincent Albouy, vous nous disiez, les oiseaux qui peuplent la capitale changent parce que les insectes ne sont plus là. En tout cas, il en reste certains, ce ne sont peut-être plus les mêmes.
Oui, en fait, ce sont probablement les mêmes. C'est une question de proportion, c'est-à-dire il y en a beaucoup moins qu'il y en avait avant. La Petite Ceinture reste, pour les naturalistes parisiens, un hotspot,
ouais.
Parce que effectivement, comme elle a très longtemps été presque abandonnée, c'est-à-dire la SNCF en avait plus vraiment besoin, mais l'armée refusait qu'on la démantèle parce que pour des raisons stratégiques, elle aurait pu en avoir besoin en cas de conflit. Ça s'est enfriché.
Ouais.
Et on a eu, c'était quasiment le seul endroit dans Paris avec quelques rares terrains vagues où on avait vraiment une végétation spontanée et sauvage. Et ça a fixé et permis de survivre à toute une petite faune, ouais. Les insectes ayant besoin des fois de quelques mètres carrés pour se maintenir à long terme.
Finalement, l'armée a œuvré pour défendre la nature et la biodiversité
en
dans la
France,
capitale.
En Ile-de-France, la biodiversité autour des anciens forts militaires est aussi très intéressante parce que quelques hectares autour de chaque fort n'a pas été touché pendant plus de 150 ans, donc très intéressant.
Et puis à Paris, il y a aussi cette histoire, vous allez nous aider à l'éclaircir, on aurait entendu des grillons dans le métro parisien.
C'était il y a peut-être une bonne quinzaine d'années, et puis brusquement un jour, j'ai pris conscience que dans le métro, il y avait certainement des grillons. Pendant un bon moment, je me suis demandé si c'était vraiment des grillons, parce que je pensais que c'était peut-être les bruits des joints de dilatation, enfin, vous savez, les rails qui font des petits crissements comme ça. Et puis, non, je me suis dit, ça ne peut être que des grillons. Et puis, au hasard de mes parcours comme ça, enfin bon, évidemment, je n'allais pas entre les stations, mais je me suis rendu compte qu'il y en avait de plus en plus, enfin, c'est l'impression que j'en ai eu en tout cas. Maintenant, peut-être que j'en ai pris conscience et qu'ils étaient déjà là depuis des années, mais... sur le moment, bon, je l'avais repéré du côté de, je crois que c'était Opéra. Et puis, il n'y en avait que dans une station dans ce coin-là. Et puis après, je me suis aperçu qu'il y en avait dans d'autres. Je crois que c'était Chaussée-d'Antin ou... Enfin, des stations proches d'Opéra. Et de là est venue l'idée, dans ma tête, comme ça, que peut-être qu'ils avaient fait souche à Opéra. Et puis que petit à petit, ils étaient en train de prendre possession des... Pas des couloirs du métro, mais des galeries du métro.
C'était François Turpin dans Les Nuits Magnétiques de France Culture. Vincent Albouy, qu'est-ce que c'est que cette histoire de grillon qui aurait élu domicile dans le métro parisien?
C'est la dernière phalange qui résiste. Donc le grillon domestique, c'est Jiminy Cricket de Pinocchio de Walt Disney. Hein. C'est le grillon du foyer. C'est donc une espèce qui peuple naturellement les bordures des déserts d'Asie occidentale, qui a rencontré l'homme au début de l'agriculture, qui a été diffusé par le commerce un peu partout dans le monde et qui, dès l'Antiquité, se maintenait dans les villes, notamment là où il y avait des boulangeries, puisqu'avec le four, il y avait toujours une chaleur constante, été comme hiver, et il y avait plein de miettes, de farine, de trucs pour nourrir le grillon. Et avec la mutation de la boulangerie, on va dire après la Seconde Guerre mondiale, évidemment, les anciens fours à bois ont disparu. Et donc le grillon s'est retrouvé, et puis après les normes sanitaires aussi, qui ont beaucoup évolué. Donc le grillon s'est trouvait exclu, mais il a trouvé refuge dans le métro, où notamment il bénéficiait de la chaleur générée par les freins du métro et des nombreux déchets, notamment des mégots de cigarettes jetés par les qui étaient jetés ou qui tombaient des voyageurs. Mmh. Et on s'est aperçu à l'occasion de la grande grève de 95 que la chaleur des freins était très importante pour eux, parce que cette grève a eu lieu en novembre, donc à une période froide, et on a des populations de grillons qui ont beaucoup diminué parce qu'elles ont eu froid en quelque sorte, hein. Donc un mouvement social a failli les exterminer et ils sont remontés après, mais après ils ont de nouveau souffert à cause de l'interdiction de fumer dans le métro, plus de tabac à grignoter. Et donc maintenant, ils sont quand même beaucoup moins nombreux.
Parce qu'ils mangeaient les mégots et le tabac.
Oui, le tabac, c'est du végétal, hein. Donc ils sont végétariens, ils mangeaient le tabac.
Incroyable.
Ils s'en sortaient très bien, ils chiquaient, ils le digéraient très bien.
Donc ces grillons venaient du désert, ces grillons du métro parisien. Mais aujourd'hui, est-ce qu'ils y sont encore?
Ah ben là, il y a toujours des populations sauvages dans leur zone d'origine. Hein.
Non, Par contre, dans le métro parisien.
Moi, je les connaissais dans les années 70-80 quand j'étais parisien. Il y avait une forte population au métro Buzinval. L'été dernier, j'y suis retourné pour essayer de les entendre. Je n'ai rien entendu. Je ne sais pas s'ils existent. Alors, je sais qu'à Opéra, il y a toujours une population, mais ils sont plutôt en régression qu'en expansion.
En tout cas, des moustiques dans le métro parisien, ça y pullule. Il y en a pas mal.
Dans le métro parisien.
En tout cas, s'il y en a dans le métro, il doit aussi y avoir de ces insectes dans les grottes. C'est le moment de retrouver le reportage sur le départ de Camille Jusot en partenariat avec la revue Relief. Camille a rencontré Didier Nectou, géologue et conservateur du musée minéralogique des mines de Paris, à quelques jours de son départ pour l'Écosse, où il espère voir les mythiques grottes de Fingal.
On brûle, c'est par là.
Ah oui, mais alors là, il me faut des clés spéciales, à moins qu'il ne soit vert ou pas vert.
Il y a des milliers de tiroirs et il y a des dizaines de clés.
Et dans chaque tiroir, il y a des trésors.
Ben dans chaque tiroir, il y a des minéraux, des roches. Là, en l'occurrence, on va chercher des roches. C'est la salle F. Voilà. Donc là, on a 4-5 clés qu'on va essayer. Je crois que c'est une toute petite, effectivement. Voilà.
Donc là, vous cherchez une pierre écossaise.
Je cherche une pierre écossaise, alors qui est très intéressante. Elle est historique, hein, puisqu'elle a été ramenée par le prince Napoléon.
Donc là, vous sortez un caillou qui est dans une boîte avec des étiquettes et des écritures anciennes.
Des étiquettes.
À quoi ça correspond ?
Aussitôt qu'un échantillon était réceptionné, donc il y avait déjà un numéro de catalogue. Là, en l'occurrence, c'est le 1564, échantillon 394, une petite étiquette, un enregistrement.
Et donc cette pierre-là, vous allez a priori en voir du même type lors de votre voyage.
Ah bah clairement, parce que j'ai passé par Édimbourg, je vais aller voir le château d'Édimbourg, donc là j'aurais une pensée émue vis-à-vis de Champcourtois et du prince Napoléon. Bon, alors je pense qu'on ne me donnera pas l'autorisation de prendre un caillou sur le château d'Édimbourg.
Est-ce que vous prévoyez de ramener d'autres cailloux ?
Ça, on peut pas s'en empêcher, hein. Mais en tant que curieux et géologue qui peut pas s'empêcher de regarder, de ramasser, oui, sûrement, il y aura quand même des cailloux dans ma valise. Et là, je suis pas sûr non plus, dans l'avion, d'emporter mon marteau. Ça va limiter quand même les prélèvements. Et puis après, la loupe. Puis après, des petits outils qui permettent de faire un diagnostic au niveau des minéraux assez rapidement. Un petit peu d'eau. Bon, là, on a toujours une bouteille d'eau, hein, pour voir s'il n'y a pas des argiles. Une petite fiole d'acide. Ça, c'est pour voir les carbonates, notamment la calcite. Et puis, des tests de dureté. Ça, c'est pas mal. Donc, on va prendre un petit bout de vitre, de verre. Voilà, ça permet de déterminer si on a du quartz, etc.
En tant qu'amoureux des pierres, c'est...
Voilà, bah là, il y a tout. Hein. Il y a les pierres, donc il y a les roches. Il y a l'aspect historique, hein, puis il y a l'aspect géologique. Parce que ce basalte, il est là, il a coulé il y a entre 50 et 60 millions d'années, je crois. Et ça correspond à un événement géologique majeur. C'est la création de l'Atlantique Nord. Donc dans la tectonique des plaques, c'est quelque chose d'extrêmement important. Non seulement je fais un voyage au 19e siècle, mais là je fais aussi, comme tout géologue qui se respecte, un voyage dans les millions d'années. Et là, on va remonter au début de l'ère tertiaire.
Alors vous n'êtes pas sûr d'y accéder parce que justement, c'est très compliqué.
On va y aller, on va essayer de trouver un bateau qui permet. Alors, pour pouvoir y débarquer, ça semble beaucoup moins évident. Donc déjà, le voir de loin, ça sera pas mal. Mais si je peux y mettre un pied, alors là, ça sera vraiment le pied.
Eh bien, merci beaucoup. On vous souhaite du coup un bon voyage en Écosse.
Voilà. Souhaitez-moi de pouvoir aller dans les grottes de Fingal.
Eh bien, on vous le souhaite. Merci et à bientôt, Camille Jusot de la revue Relief. Dans chaque numéro de la revue Relief, la rubrique Roche présente une collection de minéraux fascinants à travers le monde. Vincent Albouy, on peut retrouver des insectes dans une grotte? Il a des chances d'en trouver dans les grottes de Fingal?
Peut-être. On trouve des insectes partout, sauf dans la mer.
Ah oui.
Donc, pourquoi pas dans les grottes? Il y a, dans les grottes pyrénéennes, alpines, il y a des populations très particulières d'insectes qui souvent sont devenues aveugles. Par contre, ont développé des très longs poils sensitifs pour se repérer dans leur environnement totalement noir.
Ah oui. Pourtant, ça aurait pu être des lucioles qui éclairent la route avec leur lampe de poche incorporée.
Mais non.
Ils ont préféré la canne blanche version.
Mais je crois qu'en Nouvelle-Zélande, il y a des grottes qui sont peuplées par des asticots phosphorescents qui donnent des spectacles assez particuliers.
Cette façon de partir sur un lieu avec une quête, ça doit vous parler aussi, hein, comme ce géologue qui part dans cette grotte avec plein d'espoir. Vous, finalement, vu que vous êtes à une autre échelle, l'aventure commence dès que vous mettez un pied dans le jardin.
Presque, même dans la maison. Comme je ne chauffe pas la nuit la maison, j'ai mes populaires. Alors, c'est pas des insectes, c'est majoritairement quand même des araignées, des mille pattes, mais il y a des insectes, enfin des hexapodes comme les lépismes, etc. Donc, non, j'ai mes petits colocataires. Mais sinon, dans le jardin, c'est-à-dire n'importe quelle région de France, alors, qui plus est dans le sud, moi j'ai la chance d'être dans le sud, on a quand même des variétés. On ne peut pas tout voir, même dans une vie, tellement c'est nombreux, même s'ils sont de moins en moins nombreux.
Allez, dans un instant, vous allez, Vincent Albouy, répondre aux questions que vous ont adressées sur franceinter.fr ou la page Facebook de l'émission Les Auditeurs. Et puis, vous nous donnerez aussi quelques conseils pour observer les insectes lors des balades ou dans le jardin.
J'aimerais tant te dire ce que cache mon sourire au bout de ma langue, syllabes qui tremblent. Mais comment choisir le plus fidèle, le plus riche, le plus beau de tous les mots? Jeunes âmes ont peur en exprimant des émotions fortes de briser la magie des premiers instants. On pourrait se contenter de citer les plus grands, mais avouons que parfois les mots ne sont pas à la hauteur des sentiments. Même si j'aime tant jouer de ma bouche, toutes mes onomatopées tournent en boucle. J'aime quand tu es là. Embrasse-moi. Même si j'aime tant jouer de ma bouche, toutes mes onomatopées tournent en boucle. Crique-toi, crique-toi. Toutes mes paroles s'effilent quand tu me scotches. Ma voix stoppée dans sa course, je chute en plein élan. Tes yeux de sniper m'ont ciblé dans le viseur. Un point rouge placé sur mon petit cœur qui bâtit fort. Oh, fort. Oh. J'aime quand tu es là. Embrasse-moi. Même si j'aime tant jouer de ma bouche, toutes mes onomatopées tournent en boucle. Crique-toi, crique-toi.
C'était mes onomatopées de Mespero sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Ça, c'est une sauterelle brune qui ne peut pas voler, qu'on l'appelle Dectycelle. Là, c'est manifestement la femelle, puisqu'elle a cette gercule blanche comme ça, crème qui remonte. Si elle saute, c'est vraiment la force de ses pattes arrière, postérieures. On voit des petits papillons aussi qui sont venus. Là, on a par exemple ce qu'on appelle le demi-deuil, ou l'échiquier, on l'appelle comme ça parce qu'il a des couleurs un peu en damier, noir et blanc. Et ça, ce sont des insectes, les gros insectes, qui peuvent être des proies du hibou petit-duc, donc le petit cousin, donc beaucoup plus petit, plus menu que le grand-duc, et qu'on entend chanter. Voilà, c'est le tou. Ah, les mâles chanteurs gonflent leur goitre. Et ils vont se nourrir de ces papillons de nuit, mais aussi les papillons diurnes qui sont moins à l'aise la nuit, faciles à attraper. Encore une grosse sauterelle aptère, donc qui est incapable de voler. Et c'est pour ça qu'ils ont des sons, des crécelles d'intimidation quand un prédateur cherche à les immobiliser. Voilà.
Voilà le genre d'observation que vous aimez faire dans la nature. Vincent Albouy, vous devez vous reconnaître dans ce témoignage, dans ce son.
Dans cette ambiance.
Dans cette ambiance, voilà. Vous le dites mieux que moi. Quelques conseils, vous en donnez hein, dans vos livres, Guide des curieux de nature ou Le petit guide entomo, Vincent Albouy, chez Delachaux et Niesley. Quelques conseils pour observer les insectes et peut-être se réconcilier avec, il est temps.
Alors si on veut les observer, si on veut être sûr de les rencontrer, il faut déjà qu'il fasse plus de 16 degrés, donc l'hiver, c'est pas la peine.
En ce moment, on est dans la bonne période.
Voilà, on est dans la bonne période, il faut pas qu'il pleuve, en tout cas pas de pluie continue, et il faut pas qu'il y ait de vent fort, sinon les insectes ne volent pas. Ensuite, bon, il y a quand même des endroits privilégiés où les observer. Le premier conseil, c'est quand même les fleurs. Là, vous allez avoir une quantité de butineurs facile à voir et jamais agressif. Même les insectes qui piquent, comme les abeilles ou les guêpes, ne piquent pas quand ils sont sur les fleurs. Ils piquent pour défendre le nid. Et puis après, l'œil de l'entomologiste va aller sur le feuillage, sur les troncs, etc. Mais vous avez des trucs très intéressants à voir en soulevant des pierres, en soulevant des troncs, des écorces, là où les insectes peuvent se réfugier. Et puis si vous avez une petite épuisette dans les mares, les fossés, vous pouvez débusquer pas mal de choses intéressantes.
Allez, des questions d'auditeurs sont arrivées pour vous, Vincent Albouy. Anaïs vous demande, le pic-prune, ce coléoptère protégé dont la larve vit dans les copeaux de bois morts, avait bloqué la construction de l'autoroute de Tours à Mans. Est-ce que ce genre de phénomène s'est produit ailleurs, au Mans, pardon
Alors, à ma connaissance, non, parce que, en fait, les aménageurs prévenus, échaudés par cette affaire, maintenant, anticipent, et s'il y a des pics prunes sur le tracé, prennent les mesures compensatoires. Ça avait été arrêté parce que l'aménageur n'avait pas prévu de mesures compensatoires. Il aurait détruit purement et simplement le milieu de vie. Donc, voilà, c'est pour ça, maintenant, tous les aménageurs font très attention aux pics prunes.
Noémie vous dit, selon la légende, il ne faut pas écraser un cafard sous peine de disperser ses éventuels œufs. Est-ce vrai?
Non, pas vraiment, parce que les œufs sont dans des zootechs, c'est-à-dire des enveloppes cornées qui les protègent et qui les rassemblent. Par contre, si vous écrasez un cafard en pensant vous en débarrasser et que vous n'avez pas détruit l'zootech qu'il porte, eh ben, les œufs vont éclore et vous aurez encore plus de cafards quelques temps après. Donc, ça servira à rien.
La pyrale du buis, vous dit Lucie, la pyrale du buis qui arrive par le transport d'arbres d'ornement venus d'Extrême-Orient, comme les buis, sont en train de détruire les buis autochtones dans la Drôme et l'Ardèche. Quelle réponse apporter à ces invasions? Elle est intéressante, la question de Lucie, vous allez répondre à celle-ci précisément, mais aussi plus généralement, parce que on a dit le plus grand bien des insectes dans cette émission, mais il y en a quand même certains qui parfois font des ravages. Alors, concernant la pyrale du buis déjà.
La pyrale du buis, oui, le problème, les principales pestes, les principales espèces à problème, ce sont souvent des espèces introduites, qui sont introduites sans justement les prédateurs et les parasites qui les régulent naturellement. Le doryphore de la pomme de terre, par exemple, pour citer un exemple un peu ancien. Donc la pyrale du buis, c'est un exemple moderne et catastrophique. Actuellement, l'INRA commence à faire des études et on commence à trouver sur le marché des petites guêpes parasites qui sont chargées de réguler la pyrale. On n'a pas encore assez de recul pour voir si ça marche, mais si ça marche, ce sera tant mieux, parce que moi, elle m'a détruit tous mes buis. Hein.
D'accord. Vous faites partie des victimes.
Ah
en
oui,
tout cas,
victimes. À grande feuille, à petite feuille, panachés, pas panachés, tous ont été boulottés.
Allez, rapidement, une question de Paul. Les insectes sont-ils l'avenir pour la consommation humaine? C'est vrai qu'on parle régulièrement de manger des insectes.
Si c'est l'avenir, ça veut dire que c'est un avenir sombre. Hein. Normalement, ça pourrait être un complément, mais un aliment principal, c'est mal parti si ça devient effectivement ça.
En tout cas, ça n'est pas l'avenir que vous souhaitez. Non. Alors, je ne sais pas, Vincent Albouy, si pour infiltrer le monde des insectes, il vous est arrivé d'utiliser des techniques d'agents secrets, mais dans la deuxième heure de cette émission,
émission, nous allons plonger dans un monde très opaque, celui des services secrets, avec notre invité Jean-Christophe Notin. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous avez publié Les guerriers de l'ombre aux éditions Talendier, un livre dans lequel des agents clandestins de la DGSE parlent pour la première fois. Ça a été difficile de les faire parler ?
Très honnêtement, non, parce que c'est le résultat d'un certain nombre d'années de connaissances et d'amitié.
Ouais, vous étiez donc bien infiltré dans ce milieu vous-même.
Infiltré, mais de manière tout à fait légale et honnête.
Vous allez nous raconter ça dans un instant. Nous allons essayer de comprendre avec vous en quoi consistent réellement ces missions d'agents sur le terrain. Merci Vincent Albouy. Je rappelle les titres de vos livres, Le Petit Guide en Tomo et Le Guide des Curieux de Nature aux éditions de Lachaud et Niestlé. Au revoir.
Au revoir.